Cette année, il n'y a pas eu de culture à cause d'El Niño, trop sec. Et avec la Niña, on s'attend à avoir trop d'eau.
Ce que je vois, c'est que les pluies de l'année dernière, elles n'étaient pas normales du tout. C'est ce que je comprends du changement climatique. Il arrive des choses anormales.
Si on n'avait pas reçu d'aide cette année, et puis déjà l'an dernier, on ne pourrait pas manger, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Où voulez-vous qu'on aille? On a toujours vécu ici, et on mourra ici.
Est-ce parce qu'il porte le doux nom d'El Niño que ces ravages se produisent dans le silence de la communauté internationale? Il est pourtant à l'origine de la pire crise humanitaire mondiale. 60 millions de personnes parmi les plus pauvres, 60 millions d'oubliés, dénoncent les organisations humanitaires, souffrent des conséquences d'El Niño, ce phénomène climatique naturel qui frappe toutes les régions tropicales. C'est l'augmentation de la température des eaux de surface de l'océan Pacifique qui entraîne de nombreuses modifications du climat mondial. Phénomène qui revient tous les 3 à 7 avec son cortège de sécheresse, de pluies torrentielles et d'inondations, de cyclones. Cette année, El Niño a été le plus virulent depuis 3 décennies. Il frappe des populations fragilisées, des terres appauvries. Il a semé la dévastation au Malawi, ce petit pays d'Afrique australe. Coincé entre le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie, le président a décrété l'état d'urgence au mois d'avril dernier. La sécheresse de cette année a succédé à de dramatiques inondations l'an dernier, qui étaient dues au dérèglement climatique. C'est l'impact cumulé de ces catastrophes successives sur des populations et des terres déjà éprouvées qui est redoutable, et l'on craint que ces phénomènes extrêmes ne s'accélèrent avec le réchauffement de la planète, au point que l'on se demande s'il sera possible de s'adapter à ce chaos climatique. Choc climatique au Malawi, un pays en état d'urgence. C'est un reportage de Véronique Rebérotte. Et pour en parler ce soir avec nous, 2 invités, Pascal Canfin, ancien ministre délégué au développement, directeur général du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Éric Guilliardi, océanographe, climatologue au CNRS. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis en studio avec nous, bien sûr, Véronique Rebérotte. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous rentrez tout juste du Malawi.
Oui, de l'extrémité sud du pays. Je me suis rendue donc ce mois-ci avec l'ONG CARE, où on n'avait pas vu pareille sécheresse depuis 30 ans. 23 districts sur les 28 du pays brûlés par le soleil. Les récoltes de maïs ont été très mauvaises, voire nulles. C'est la base de l'alimentation au Malawi. Pas de récolte ou si peu. Or, cela avait déjà été le cas l'an passé, donc à cause de grosses inondations liées au réchauffement climatique qui ont ravagé carrément le sud du pays. Deux chocs climatiques qui s'enchaînent, donc 2 années sans récolte. Le Malawi n'a plus les moyens de se nourrir et ce n'est pas terminé, puisqu'après El Niño suivra cet hiver la Niña, synonyme de nouvelles inondations peut-être, et d'une 3e année sans récolte, une accumulation de chocs climatiques devenue insurmontable.
On écoute tout de suite votre reportage. Véronique, il débute dans la West Bank, c'est à 8 heures de route de la capitale, Lilongwe, tout au sud du Malawi.
On est ici à l'école primaire de Pombwe. C'est un des points de distribution de nourriture. Ici, on apporte de l'aide à 567 familles.
On peut aller voir ?
On utilise une des salles de classe pour stocker, mettre la nourriture à l'abri et la distribuer. On fait ça une fois par mois. On essaie d'aller vite car les instituteurs ont besoin de leur salle. On essaie d'éviter que ce soit un trop gros dérangement.
C'est des gros sacs de riz, hein, c'est énorme. C'est des sacs de combien de kilos de riz qu'elles emportent, les dames ?
50 kg.
50 kilos ?
This also is a display board.
Ici, sur ce tableau, on a inscrit les rations qui vont être distribuées par personne. Les bénéficiaires savent ce qu'ils vont recevoir. Ça doit être conforme à ce qui est écrit ici.
Donc là, il y a une pancarte, effectivement, il y a marqué les rations dont les gens peuvent bénéficier, 50 kilos de maïs, 10 kilos de haricots, de l'huile, 2 litres. Et là, il faut que la distribution soit exactement conforme à ce qui est écrit ici, hein, c'est ça. les femmes ici qui viennent chercher de la nourriture, elles ont des sacs sur la tête comme ça, et non?
La situation est vraiment de pire en pire. À cause d'El Niño cette année, c'est la pire situation qu'a connue le Malawi ces 10 dernières années. Ça a un impact énorme sur la vie des gens. Il y a une réponse d'urgence à apporter. À cause d'El Niño cette année, on a dû augmenter le nombre de bénéficiaires de cette aide.
Est-ce que El Niño, vous voyez les conséquences, est-ce que ça va durer encore plusieurs mois? Fatalement, puisqu'il n'y a pas de culture, puisqu'il y a des difficultés à cultiver à cause d'El Niño, il n'y aura pas de nourriture encore dans les prochains mois.
Ça va sûrement durer, car l'année prochaine, ça ne devrait pas s'arranger. Comme l'an passé, il devrait y avoir beaucoup de pluie à cause de la Niña, après la sécheresse due cette année à El Niño. On s'attend vraiment à de grosses pluies. Cette année, il n'y a pas eu de culture à cause d'El Niño, trop sec. Et avec la Niña, on s'attend à avoir trop d'eau. C'est ça la différence entre les deux.
Peut-être des inondations aussi.
Oui, il pourrait y avoir des inondations. Nous nous attendons vraiment à ce qu'il y ait de nouvelles inondations.
Quelle est la situation? Si vous ne distribuez pas de nourriture, quelle est la situation des gens qu'on voit là autour de nous avec, qui repartent avec effectivement des gros sacs de riz et de maïs? Quelle est leur situation? Ils n'ont rien à manger?
Ces gens sont vraiment vulnérables. Ils n'ont pas assez de provisions chez eux pour nourrir toute une famille. Certains ont un peu récolté, mais ils n'ont pas de quoi tenir plus de 3 mois et aller jusqu'à la prochaine récolte. Si on ne les aide pas à passer cette période, leur situation ne s'arrangera jamais.
Sous un arbre modeste atteignant à peine un soleil brûlant, des dizaines de personnes, l'air exténué, font la queue pour passer le contrôle. On prend leurs empreintes, ils signent un registre. Ce sont surtout des femmes, elles portent un enfant dans le dos. On les incite aussi à passer à de petits bureaux en plein air pour parler de leur situation, pour chercher de l'information sur le sida épidémique au Malawi. Un sac Bob Marley en bandoulière, une femme et son voisin se reposent avant de repartir chez eux. Ils ont récupéré leurs provisions. Ils viennent tous les mois. L'an dernier déjà, victimes des inondations, ils avaient reçu une aide alimentaire.
Combien de temps elle a mis pour venir ici ce matin?
2 heures.
2 heures vous avez mis. Est-ce que c'est plus dur cette année?
La situation est bien pire cette année, c'est difficile. Parce que rien n'a poussé, il n'y a pas eu de pluie. On n'a pas de quoi nourrir nos enfants. Ils restent toute la journée à la maison.
Les enfants vont chercher des fruits à la rivière parce qu'ils ont faim. Ils ramassent des fruits noirs sur les arbres près de la frontière avec le Mozambique. Mais ça les rend malades. Ça leur donne mal au ventre pendant 3 jours. Et puis il n'y a pas assez de fruits pour tout le monde. Ça cause des problèmes.
Si on n'avait pas reçu d'aide cette année, et puis déjà l'an dernier, on ne pourrait pas manger, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Où voulez-vous qu'on aille? On a toujours vécu ici, et on mourra ici.
Regina vient pour la première fois. La situation de cette femme de 54 ans, qui en paraît facilement 15 de plus, s'est dégradée cette année. Le coup de grâce est venu avec El Niño.
J'ai passé la nuit ici, je viens de loin. Ma maison a été inondée l'année dernière. J'ai perdu tout mon bétail, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Maintenant, je suis obligée d'avoir 2 maisons. Une à l'endroit où j'habitais avant, près des champs, et une sur la colline en hauteur. Au moins, je suis à l'abri en cas de nouvelles inondations.
C'est dur de bouger en fonction du climat.
Ce que je comprends du climat, c'est qu'il n'y a plus de saison des pluies, tout est déréglé. Ils nous en parlent à la radio, ils nous disent quand il faut planter, ils nous donnent des conseils, mais on ne sait plus quoi faire.
De 2 800 000 l'année dernière, on est passé à 6 500 000 de personnes ayant besoin au Malawi d'une aide alimentaire d'urgence. Une aide donnée en nature ou à travers du cash, de l'argent donné directement, une autre façon d'apporter de l'aide. Miexilo Mietek est le représentant du Programme alimentaire mondial, une agence des Nations Unies.
C'est un transfert très particulier qui s'est développé un peu en Afrique, et pas seulement en Asie, etc., où on fait des transactions à travers les networks téléphoniques. Donc, voilà, les bénéficiaires reçoivent certains montants de l'argent qui est équivalent au montant de nourriture qui est distribué aux bénéficiaires qui vivent dans les endroits où les marchés ne fonctionnent pas.
Ça permet quand même de faire marcher l'économie locale, vous diriez? C'est ça l'intérêt de ce cash?
Ça aide à développer l'économie, à développer les marchés. Et donc, on contribue à travers sept moyens de distribution, pas seulement assister les gens, mais entre-temps, ils peuvent acheter les ingrédients, ils peuvent planter les légumineuses derrière leur maison, dans, créer un petit jardin, etc. Parce que notre intervention, elle n'est pas simplement de donner la nourriture gratuitement. Donc comme ça, on les habitue à s'arranger eux-mêmes. Aussi, on les aide avec un projet très particulier où on les aide à s'inscrire à prendre une assurance. Assurance dans la cultivation. Et oui, c'est nouveau. Et c'est un projet qui prend une certaine importance. Pourquoi? Parce que on doit tenir compte que Malawi, il y a à peu près 80% des populations qui vivent d'agriculture. Donc, si on a ces chocs climatiques qui sont très réguliers, etc., il faut créer certains mécanismes sur lesquels les gens ils peuvent dépendre. Qu'est-ce que c'est l'assurance climatique? Au début, nous, on paye, mais ils travaillent pour nous payer.
Qui est l'assureur? C'est vous, du coup? Qu'est-ce qui paye? C'est une compagnie d'assurance?
Compagnie d'assurance privée avec qui on travaille. C'est une assurance locale. Donc, c'est un projet pilote qu'on expérimente dans certains endroits. Et vu le succès de ce projet, donc, on va étendre ce projet sur les autres populations. Pour, justement, le but, c'est à les aider à avoir des mécanismes et des systèmes lesquels les aidera dans le futur à résister à ce choc et à la limite aussi à répondre à ce choc climatique.
L'an dernier, à cause des inondations qu'a connues le sud du Malawi, 200 000 personnes ont dû être déplacées, relogées sur des hauteurs pour échapper à la crue de la rivière dans la région de Sandjié. Les pluies torrentielles ont fait 105 morts par noyade, plus de 400 à cause de l'épidémie de choléra qui a suivi. Il a fallu trouver des points de chute sur des collines. C'est effectivement une colline un peu balayée par le vent puisque les maisons ont été construites dans une ancienne forêt. Beaucoup d'arbres ont été coupés pour construire les maisons qui sont là autour, des maisons en torchis, mais le bois effectivement sert à fabriquer le toit et à supporter ensuite les bâches qui sont mises dessus. Il y a quelques habitations temporaires et de nouvelles habitations sont en train d'être construites en briques. Mais du coup, le vent souffle beaucoup ici et la colline est ouverte à tous les vents et à toutes les tempêtes. Avant que les gens viennent ici, c'était une forêt, il y avait beaucoup d'arbres. Andrew Komalo de l'ONG CARE a supervisé cette relocalisation des victimes d'inondations.
Before the people relocated to this place, basically it was a forest. There were a lot of trees here, bushes.
Avant que les gens soient relogés ici, c'était une forêt. Il y avait beaucoup d'arbres et des fourrés. Et parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, ils ont été amenés ici.
There were indeed a lot of trees, yes, and some of the trees have been cut.
Oui, il y avait des arbres et certains ont été coupés pour fabriquer des cabanes. Regardez, les structures sont en bois et on a aussi utilisé du bois pour cuire des briques dans des fours à bois et construire des maisons plus durables. On a dû aussi apporter l'eau potable et construire des puits. On a construit 21 puits.
On bouge, on va essayer de rencontrer maintenant des familles qui ont bougé, qui vont nous expliquer ce qu'ils ont vécu donc l'année dernière. En 2015, des grandes inondations pourraient revenir en 2017.
On se déplace en musique dans le village, musique qu'on entend en circulant entre les cabanes. La température frôle les 40 degrés. On arrive chez une jeune femme qui donne le sein à son bébé tout en faisant la vaisselle.
Donc là, on s'approche d'une petite maison qui a été reconstruite, effectivement, et au-dessus, il y a les toiles des tentes qui servent de toit. C'est ce qu'on vient de nous expliquer. Madame fait la vaisselle. On a apporté des petits bancs pour s'asseoir. Monsieur, en fait, quel âge avez-vous? 24 ans, ok. Combien d'enfants?
Ah oui.
Deux enfants. Qu'est-ce qui est arrivé avec les inondations?
Il y a eu énormément de pluie en janvier de l'année dernière. Mon village a été inondé et on a dû se déplacer dans des camps. On a juste eu le temps de se sauver en bateau.
Ils n'étaient pas prévenus de ce qui allait arriver ?
Si, on a été prévenus deux jours avant. Certains sont partis, pas moi. J'ai pensé que ce serait comme d'habitude. Des inondations, il y en a tous les ans, mais là, il y a eu vraiment beaucoup d'eau. J'ai presque tout perdu. Mes chèvres, mes poules, tous les vêtements et les provisions que j'avais. Le bétail qui a survécu, j'ai dû le vendre par la suite. On n'avait pas d'autre choix que de bouger. 6 personnes sont mortes dans notre village.
C'est dû à quoi? D'habitude, il y avait des petites inondations. Là, c'était une grosse inondation. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe en ce moment avec les inondations, le climat qui change?
Ce que je vois, c'est que les pluies de l'année dernière, elles n'étaient pas normales du tout. C'est ce que je comprends du changement climatique. Il arrive des choses anormales.
Ici, il ne peut plus rien arriver, ça va? Ou qu'est-ce qu'elle craint peut-être encore d'autres problèmes climatiques?
Ici, sur la colline, ce qui m'inquiète, c'est le vent. Il peut souffler très fort. J'ai peur qu'il emporte le toit de la maison. Et puis, ici, on ne peut rien cultiver. Les sols ne sont pas fertiles, comme au bord de la rivière. Il faut descendre de la colline pour aller cultiver nos champs. Et c'est plusieurs heures de marche.
Là, on fait quelques pas et on rencontre le chef de la communauté qui va nous dire un petit peu comment ça se passe ici, les conditions de départ de cette relocalisation après inondation.
Je m'appelle Landan Chipera, je suis le chef du village de Chizinga et je suis agriculteur.
Qu'est-ce qui est arrivé l'année dernière pour lui et aussi pour le village ?
Un matin de janvier, l'eau a commencé à monter vers 7h du matin. À midi, il y en avait partout. C'est vrai qu'on nous avait prévenus. Il y avait eu des messages à la radio et à la télévision pour nous dire qu'il fallait partir, ne pas rester dans nos maisons. Mais je n'ai pas réagi jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau partout. J'ai commis une erreur. 6 personnes du village se sont noyées. J'ai perdu ma belle maison, du bétail, des vaches et comme tout le monde, des chèvres et des poules. J'ai aussi perdu 5 personnes très proches. Et ma fille aussi a bien failli mourir. Elle a été sauvée in extremis. En fait, ils étaient 6 dans un bateau. Le bateau s'est renversé, ma fille, qui avait 13 ans à l'époque, l'an passé, ne savait pas nager. Et elle a été sauvée par quelqu'un en pirogue qui l'a tirée de l'eau.
Comment voit-il les choses à l'avenir? Il y a des inondations, aujourd'hui la sécheresse, demain des inondations sûrement à nouveau. Comment voit-il cette situation-là changer, le climat changer?
On vit le changement climatique, ses impacts, depuis des années. Cette fois, on ne peut pas retourner dans notre ancien village. On peut cultiver notre maïs, en bas, près de la rivière, au pied des collines, mais on ne peut plus y vivre. C'est trop dangereux. C'est de pire en pire, chaque année.
Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas déménagé, qui n'ont pas voulu venir ici, qui sont complètement partis de la région pour aller en ville ou ailleurs?
Non, personne n'a quitté la communauté pour s'installer ailleurs.
Est-ce qu'il y a une sorte de fatalité par rapport à ce qui arrive ou comment les gens dans le village prennent les choses? Est-ce qu'ils se disent que c'est comme ça, qu'on peut rien faire, ou est-ce qu'ils trouvent des boucs émissaires ou des responsables?
On a tous une part de responsabilité dans le changement climatique. En Afrique, on coupe beaucoup d'arbres pour cuisiner ou comme ici, pour construire des maisons. Il ne faudrait pas. C'est notre faute aussi, tout ce qui arrive. Mais on n'a pas trop le choix.
Comment c'était avant? Quand est-ce que ça a commencé à changer le climat?
En fait, ça a commencé vers 2001-2002. Les pluies sont devenues complètement incontrôlables. Elles ne démarrent plus en septembre ou en octobre, mais bien plus tard, parfois en décembre ou en janvier. En fait, on ne sait plus quand la saison des pluies va arriver, s'il n'y aura pas assez d'eau ou trop. La dernière saison, c'est simple, il n'y en a pas eu.
Est-ce que quand on est agriculteur au Malawi, ou dans le sud du Malawi, on est très au sud, on est condamné à être aujourd'hui aidé par des associations, par le gouvernement? Est-ce qu'on est condamné à être assisté tout le temps parce qu'il faut s'adapter au réchauffement climatique, ou est-ce qu'on peut s'adapter tout seul? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
On va essayer de faire ce que l'on peut avec ce climat. Mais sans pluie, c'est vraiment difficile de faire pousser quelque chose. Et si les ONG ne nous aidaient pas, ce serait compliqué. Mais cette aide pose des problèmes aussi. Par exemple, certains autres villageois ne sont pas contents qu'on se soit installé ici, sur la colline, comme ça. Ça crée des tensions. Mais je n'arrête pas de dire aux habitants de mon village qu'il faut que l'on surmonte tout ça, qu'il faut continuer à travailler. Ce n'est pas l'idéal de vivre ici, sur cette colline, en plein vent, loin de nos champs. Mais je leur dis qu'il faut continuer à se battre, malgré les difficultés.
Mais on fait le constat quand même qu'il y a beaucoup de vent et qu'il va falloir construire des maisons solides. Sinon, il pourrait y avoir des problèmes. Ce n'est pas forcément le bon endroit, mais il n'y avait pas beaucoup d'options possibles. Nous ne ferons pas le trajet à pied, mais en 4x4. On traverse la rivière qui est sortie de son lit l'an passé. Le niveau est bas. Les enfants que nous croisons nous montrent dans des cuvettes des poissons microscopiques qui viennent de pêcher. Autour, des champs de maïs à perte de vue, tout est sec. Nous voilà un peu là au milieu des champs de maïs. La récolte vient d'être faite. En fait, on a, depuis l'endroit où le nouveau village a été reconstruit, il y a à peu près 3 heures, 4 heures, plus de 4 heures même, de marche à pied. Donc c'est une énorme zone où il y a du maïs de planté, des patates douces, du riz quand c'est la saison des pluies, donc à partir de novembre, il y a des rizières. Et on a traversé cette immense étendue sans voir personne, quelques maisons détruites, puisque les maisons étaient détruites par les inondations, en partie, seules celles, on voit encore quelques maisons en briques qui ont résisté, avec donc de l'eau qui montait largement au-dessus des toits. Et c'est difficile à imaginer sur cette grande étendue. Ça, c'était la maison du chef là, de village qu'on vient d'interviewer, qui se trouve maintenant sur la colline. Effectivement, elle est complètement détruite. Ici, il y avait de l'eau partout. On a traversé un endroit immense avec où il y avait du maïs, des plantations partout, et il y avait de l'eau partout.
By then, yes, there was water everywhere. You could see.
Oui, ici, il y avait de l'eau tout autour. Vous voyez ces arbres? Ils étaient entièrement recouverts d'eau. Ça n'a pas suffi de se mettre à l'abri sur les toits. En quelques heures, ils ont été submergés par l'eau de la rivière. Ils ont cru qu'ils seraient à l'abri, mais ils sont morts, noyés quand l'eau est arrivée sur les toits. Les maisons étaient sous l'eau. Il n'y avait pas d'autre option que de partir habiter ailleurs, de se mettre sur les hauteurs. Mais vous allez voir, il faut ensuite revenir, cultiver ici.
On est vraiment au milieu de nulle part, vraiment dans une étendue de culture, mais c'est immense. Difficile de sauver des gens dans ces conditions, effectivement.
Oui, avant que l'aide des ONG internationales n'arrive, il s'est passé 2 jours. On a pu sauver quelques villageois, mais beaucoup de personnes ont eu le temps de mourir.
En fait, les gens viennent de la colline où ils ont été relogés, ici, mais ils restent plusieurs jours, parce que c'est quand même très loin. On met plusieurs heures pour venir à pied, donc ils viennent 3-4 jours, parfois une semaine, et ils repartent. Et ils cultivent ici, ils restent ici. On va rencontrer un agriculteur avec sa femme. Mathieu me dit que c'est là qu'ils dorment, c'est vraiment très sommaire. Une petite cahute en paille. Là, on est vraiment dans un champ de maïs. Là, tout est très sec. Bonjour. Donc, il y a un monsieur avec son épouse. Là, ils viennent donc une semaine. Ils ont été relogés où on était tout à l'heure sur la colline. Et ils viennent ici. Ils restent la semaine, quelques jours. Ça dépend. C'est possible de travailler comme ça quand on est un agriculteur, de ne pas loger là où on cultive?
Il peut y avoir des inondations encore, aussi graves que l'année dernière. Ça peut arriver. Là-haut, même si c'est à 4 heures de marche, on est à l'abri. Si cet hiver, la rivière déborde, nos récoltes seront détruites, mais nous serons en sécurité. Je suis sûr que ça va recommencer. C'est la vie. Ici, c'est le seul endroit qu'on a pour faire pousser notre maïs. Grâce à la rivière, les sols sont fertiles.
Inondations meurtrières en 2015, sécheresse extrême en 2016 et peut-être d'autres inondations à venir avec le phénomène La Niña qui démarre. La Niña suit El Niño et pourrait dès cet hiver produire des pluies excessives, mieux malgré tout que rien. Florence Roll est la représentante de la FAO Malawi, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
Ce qu'on espère beaucoup, c'est le phénomène La Niña, qui est présenté comme un phénomène plus d'eau, mais pour nous, dans le secteur agricole, plus d'eau, même si ça apporte des inondations et des problèmes, c'est mieux que moins d'eau. Donc ce qu'on espère, c'est soutenir la reprise agricole, là, à cette saison, que le Malawi ait plus d'eau, que ça recharge les aquifères, enfin, le lac Malawi est extrêmement, le niveau du lac est extrêmement bas, et qu'on puisse soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser à plein les pluies que les scientifiques disent on va recevoir.
Vous parliez du lac Malawi qui est à son plus bas niveau, avec des soucis aussi d'approvisionnement en électricité, puisque l'électricité, l'énergie est essentiellement hydraulique dans ce pays.
Oui, elle est entièrement. Mais de toute façon, les sécheresses impliquent des problèmes non seulement dans le secteur agricole, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Donc, pas d'électricité, des coupures d'électricité qui font que n'importe quelle petite entreprise est mise à mal sérieusement. Donc ça a des grosses implications pour le pays, grosses.
Finalement, La Niña, ça peut être une bénédiction.
Voilà, hein, une opportunité. Moi, je la vois comme une opportunité pour le secteur agricole.
Et l'impression de mettre les gens à l'abri.
Voilà. Mais quand on regarde ces zones inondables, on les connaît. C'est toujours les mêmes. Donc, c'est possible de se préparer.
J'ai vu, moi, des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus habiter là où ils cultivent. Ils ont été relogés sur les hauteurs, sur des collines, pour être à l'abri effectivement des inondations et de la montée des eaux pendant ces périodes d'inondations qui pourraient se reproduire cette année. Et donc, ils ont juste 3-4 heures de marche à pied à faire pour venir cultiver. Ils restent donc plusieurs jours là à habiter dans des cahutes ou dehors, près de leurs champs. Ça les met aussi dans une situation extrêmement difficile.
Alors là, je vais être pas d'accord avec vous. Surtout si vous parlez de Nsanje. Vous êtes allé à Nsanje.
C'est ça.
Parce qu'à Nsanje, il y a justement, les populations se sont adaptées. Et ils ont deux endroits pour vivre. Ils ont leur maison sur les hauteurs. Et comme ils ont leur champ le long de la rivière est le plus important, parce que c'est celui qui est le plus fertile, grâce aux inondations, parce que les inondations amènent toute la matière organique, la fertilité, et quand l'eau diminue, ils cultivent. Et c'est là où ils ont le plus de récoltes. Et donc, ils ont leur petite cahute près de leur champ pour pouvoir, pendant la récession de la rivière, cultiver. Donc, au contraire, c'est un très bon moyen d'adaptation aux inondations. Ce n'est pas le retour à la normale qu'on veut, c'est une adaptation à ces changements climatiques et une plus grande capacité à gérer les risques.
Le Malawi n'est semble-t-il pas prêt de se passer d'aide humanitaire si une troisième année sans récolte venait à se produire. Les fonds manquent, alerte le représentant du PAM, Miexilo Mietek.
Ce serait vraiment catastrophique à attendre qu'on a des personnes mortes pour répondre à la situation, parce que je dis, on est dans la situation, l'orage, il arrive, qu'il meurt de faim. On a justement certains rapports de la semaine dernière qui disent qu'il y avait des personnes justement qui sont décédées à cause du manque de nourriture, de la famine, dans certains endroits. Donc, bien sûr, il y avait des investigations pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment passé, si c'était à cause du manque de nourriture, de la famine, que les personnes sont décédées. Alors, le problème, il est majeur parce que les pays comme au Malawi, il y a beaucoup de collines et on est avant de la pluie. Donc, nous, on passe l'information maintenant au pays donateur, au bailleur de fonds, pour dire qu'il faut nous donner de l'argent maintenant, qu'on puisse acheter de la nourriture, qu'il n'y a pas suffisamment dans les pays, régionalement ou internationalement, mais qu'on puisse là aussi prépositionner dans les zones qui seront plus accessibles sur les collines quand la pluie va commencer. Donc la catastrophe, ce serait encore pire.
Il y a des endroits qui sont inaccessibles.
Il y a beaucoup d'endroits et on a besoin de prépositionner pour anticiper à peu près, pour livrer dans cette destination, justement dans les zones sinistrées, à peu près 50 000 tonnes de vivres. 50 000 tonnes de vivres entre maïs, haricots, légumineuses, pour justement prépositionner ces stocks, pour pouvoir les distribuer pendant les périodes de pluie, quand cette zone sera sinistrée et inaccessible pendant les saisons de pluie.
Vous êtes optimiste sur le fait que vous pourrez mobiliser avant la catastrophe, justement, que ce sera pas... C'est toujours facile quand il y a urgence absolue, enfin, ça paraît plus facile que quand... On imagine que ça va mal se passer, on le sait déjà, il ne faut pas être devin, mais vous êtes optimiste ou pas?
Nous, on est toujours optimiste, oui. Parce qu'on est là à sauver les vies, il y a l'urgence. Il faut justement passer cette information régulièrement aux bailleurs de fonds.
Sont
tout le monde, sont les pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays. Bien sûr, le gouvernement de Malawi, il a déjà donné beaucoup de maïs pour cette réponse humanitaire. Mais on risque d'avoir rien à partir du mois de janvier. Ils ont un besoin très particulier cette année et cette lettre, c'est le seul moyen qui peut les aider pour passer cette période difficile, en espérant qu'ils puissent aussi planter pendant la prochaine saison de pluie, qu'ils arrivent à récolter prochainement.
Et si à cause de la Niña, des nouvelles inondations, ils ne peuvent toujours pas planter, là on sera dans une situation vraiment assez désespérée.
Prolongée, des crises prolongées, déjà troisième année consécutive. Et là, vraiment, ce serait très grave pour cette population, parce que cette population, il risque de perdre quasiment tous les moyens qu'ils ont. Donc là, ils resteront vraiment à la merci des gens qui puissent les porter cette aide humanitaire.
Une inquiétude grandement partagée par Rose Tchenko du bureau de Caire au Malawi. Les chocs climatiques tuent en silence, ils ne font pas forcément la une des journaux.
C'est très très compliqué. En termes de ressources financières, nous sommes en concurrence, je peux dire, avec des très très grandes usines en Syrie, Afghanistan, Irak, même la situation des migrations en Europe. Donc c'est déjà en Malawi...
Pas prioritaire.
Oui, exact. Donc il faut faire beaucoup de lobbying. Il faut vraiment essayer de rester sur le radar pour ne pas être oublié. Donc il y a d'abord cet aspect. De l'autre côté, les engagements internationaux, je les vois souvent avec un peu de suspicion, comme de grands mots, peu d'action après. Pas seulement pour le Malawi, mais un peu partout. On trouve qu'il y a toujours des engagements qui sont pris dans les médias, des photos, de gros chiffres qui sont partagés. Et après, la réalité sur le terrain n'est pas... Là, je crois pour moi la frustration est qu'il y a toute une génération, plusieurs générations de personnes qui ne peuvent plus attendre. Pour eux, le temps est déjà très, très limité. Et si on ne fait pas quelque chose de compréhensif, très vite, on va perdre toute une génération. Et moi, parfois même ici au Malawi, moi, je me dis plusieurs générations de personnes qui vont passer à des vies trop dures. Et ça va être juste une question de survie au lieu de vivre. Oma mulungu yeraona anakumudwa nae wambili modi ufumu wake unaliobebuka wakuti aisana vele kuvela kuvela.
17h38 sur France Culture, choc climatique au Malawi, un pays en état d'urgence. C'est un reportage de Véronique Rebérotte réalisé par Annie Bro avec nous dans ce studio pour décrypter, pour analyser ces chocs climatiques. Pascal Canfin, ancien ministre délégué au développement, directeur général du WWF, et Éric Gilliardi, océanographe, climatologue au CNRS. Alors Éric Gilliardi, on a brièvement évoqué El Niño dans le reportage. Vous êtes spécialiste de ce phénomène naturel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est pas un phénomène nouveau, mais il semble qu'il était particulièrement virulent l'année dernière.
Effectivement, El Niño n'est pas nouveau, il existe depuis sans doute des millions d'années, en fait depuis que le Pacifique est le Pacifique. Pour le comprendre, il faut se déplacer du Malawi, partir dans le Pacifique tropical. Donc le Pacifique, c'est, si on fait une vue satellite, c'est la moitié de la surface de la Terre, hein, il est gigantesque. À l'est, c'est l'Amérique du Sud, à l'ouest, l'Indonésie. Et El Niño est en fait une perturbation de l'état normal du Pacifique. Alors quel est cet état normal ? Imaginez d'abord les alizés qui s'ouvrent d'est en ouest, donc des côtes du Pérou, Équateur, vers l'Indonésie. Et ces alizés, des vents relativement constants et forts, poussent ces eaux chaudes vers l'Indonésie et accumulent ces eaux chaudes. On a une piscine d'eau chaude indonésienne, la surface de l'océan 28. Est à 30 degrés, 28-30 degrés. Par contre, à l'est, cette eau qui s'en va est remplacée par des eaux froides. Et donc, on a des eaux plus froides à 24-25 degrés. Cette différence de température fait une différence de pression dans l'atmosphère qui entraîne les alizés. Donc, vous voyez, donc on a un système couplé qui s'auto-entretient. Certaines années, le système se dérègle. Les alizés s'affaiblissent, les eaux chaudes reviennent vers l'ouest, ce qui fait que les alizés s'affaiblissent encore plus. Et ça, c'est le phénomène El Niño qui va durer à peu près un an, de printemps à printemps.
Et il a des répercussions donc jusqu'en Afrique.
Alors, il a des répercussions sur l'ensemble de la planète, d'abord dans les tropiques. Pourquoi ? Parce que au-dessus de l'Indonésie, on a de l'eau chaude qui va faire de la convection atmosphérique, de l'air qui monte. Par contre, dans l'Est, on a de l'air qui descend. Donc, on a une cellule à l'échelle du Pacifique. Il y a la cellule équivalente dans l'océan Indien, puis dans le Pacifique. Donc, quand El Niño va jouer des coudes avec ses cellules dans le Pacifique, ça affecte toutes les autres cellules de circulation dans les tropiques, en particulier au-dessus de l'océan Indien, de l'Afrique.
Et quand ça vient se superposer déjà aux effets du réchauffement climatique, là c'est terrible, comme cette année.
Alors, effectivement, donc, le réchauffement climatique, c'est une tendance à beaucoup plus long terme. On le regarde en faisant des moyennes sur 10, 20 ans, 30 ans. El Niño arrive tous les 3 à 7 ans. Maintenant, quand les deux se superposent, effectivement, on va avoir une amplification des phénomènes. Alors, de quel ordre va être cette amplification ? Tout d'abord, une atmosphère plus chaude. Hein. La Terre s'est réchauffée d'un degré depuis qu'on émet de dioxyde de carbone, depuis l'ère pré-industrielle. Donc un degré de plus chaud, c'est-à-dire que l'atmosphère contient plus d'humidité. Quand vous êtes dans votre salle de bain après une douche, il a fait chaud, l'air est saturé d'humidité. Donc plus l'air est chaud, plus il contient d'humidité. Donc quand il va pleuvoir, en particulier lié à El Niño, il va pleuvoir plus. Donc les événements extrêmes liés à El Niño, sans même parler du changement d'El Niño lui-même, vont être plus extrêmes, en particulier pour les épisodes de précipitation.
Et on voit donc cette arrivée, notamment puisqu'on était au Malawi, hein, avec Véronique Robérot, sur des populations, sur des terrains qui avaient déjà été affectés, Pascal Canfin, donc ce sont toujours les plus pauvres qui en souffrent.
Oui, c'est la grande injustice du dérèglement climatique. Et c'est pour ça que moi je parle de dérèglement climatique, d'ailleurs plus que de changement climatique. Parce que ce qu'on voit dans le reportage, de manière frappante et malheureusement dramatique, c'est bien qu'on a des dérèglements des écosystèmes. Donc la capacité à vivre à un moment donné, à un endroit donné, ou à survivre. Et ce dérèglement, eh bien, c'est un changement de l'ordre qui, effectivement, bouge sur du très très long terme, puisque le climat de la planète modifié. Mais là, on est sur une amplification, une accélération jamais vue dans l'histoire du rythme des modifications climatiques, ce qui fait que ce qui est en cause, c'est notre capacité d'adaptation. Donc plus on est riche, plus on a la capacité d'investir pour se protéger, c'est le cas des Hollandais par exemple, plus qui font des digues depuis des siècles, moins on est riche, plus on est vulnérable. Or, l'Afrique aujourd'hui, ça reste 2% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont évidemment, et c'est l'une des grandes injustices, c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est le pape François qui le dit, la plus grande injustice du dérèglement climatique, c'est ça. C'est que les premières victimes les moins responsables.
Est-ce que cette capacité de résilience, d'adaptation, on a le sentiment, Pascal Canfin, qu'on l'a atteint là au Malawi, qu'il y a des zones qu'on ne peut plus s'adapter au choc?
C'est le grand mot maintenant, hein, la question de la résilience, puisque on a longtemps cru, et les climatologues eux-mêmes, je parle sous le contrôle d'un climatologue savant, ont longtemps estimé que ce serait des conséquences pour les générations futures. Eux-mêmes, quand j'entends des gens comme Jean Jouzel, qui est membre du GIEC, dit « Quand j'ai commencé ma carrière de climatologue, je n'imaginais pas un seul instant que ce qu'on voit aujourd'hui, on le verrait maintenant. Je pensais que ce serait en 2030, en 2040, en 2050. Or, c'est maintenant. Et la définition de ce qu'on appelle le fameux développement durable, mot totalement galvaudé, on parle des générations futures. Mais en fait, il ne faut plus parler des générations futures. Ce sont les générations actuelles qui sont directement concernées, les nôtres. C'est pour ça que la question qui est posée, c'est contre cette vulnérabilité, cette capacité de résilience des communautés, des sociétés. Et certaines, les plus pauvres notamment, celles qu'on a entendues dans le reportage, ont une capacité de résilience extrêmement faible, qui font que très probablement, ils seront amenés à migrer. Lorsqu'ils vont migrer, ils vont rejoindre d'autres migrants et qu'on va se retrouver, d'après les projections, avec plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques. Et quand on voit la très grande difficulté, pour ne pas dire le côté hermétique de nos sociétés, à l'accueil d'un certain nombre de migrants aujourd'hui qui se comptent en dizaines de milliers de personnes.
On est plutôt tenté de mettre des barbelés, effectivement.
La probabilité que tout ça se passe bien est quand même extrêmement faible.
Ce sera ça la réponse ? Ça sera ce que disait Véronique, mettre des barbelés ?
Alors, c'est pour ça que le dérèglement climatique, c'est pour moi, c'est un problème civilisationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en paix à 9 milliards en 2050, avec un monde qui vit des chaos climatiques répétés. C'est impossible. C'est pour ça que les scientifiques, les climatologues, n'ont pas eu le prix Nobel de la nature, ils ont eu le prix Nobel de la paix.
De la paix, oui.
Pourquoi ? Parce que c'est un sujet profondément de civilisation. Donc il faut que nous, on connecte aussi les sujets de sécurité, de paix, de vivre ensemble et environnementaux, parce que le dérèglement climatique, qui est encore trop souvent perçu comme un sujet environnemental, en fait, c'est pas un sujet environnemental, c'est un sujet de civilisation. Est-ce qu'on sera capable de vivre ensemble au XXIe siècle ?
Vous opinez, hein, Eric Gilliardi, c'est pas les générations futures, ce sont les générations actuelles, et il est question de paix.
Oui, alors, sur l'impact, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a deux choses à distinguer. Il y a l'effet moyen qui est lent, malgré tout, sur cette dizaine d'années, on s'est réchauffé d'un degré en une centaine d'années. Mais ce que ça va faire, ce changement moyen, ça va faire qu'on va passer des seuils, lors d'événements extrêmes, par exemple, plus souvent. Hein, c'est ce qu'on voit, ce qui s'est passé. Alors, il y a de la variabilité qu'on appelle naturelle, qui permet de passer ces seuils régulièrement. El Niño et La Niña ont des impacts sur les populations, les écosystèmes, depuis que El Niño existe. Sauf que maintenant, on va passer plus facilement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'un El Niño très fort pour passer ces seuils. Et l'El Niño qu'on vient d'avoir, 2015-2016, qui est le plus fort depuis une vingtaine d'années à peu près, lui a eu donc des conséquences qui ont été décuplées par le changement climatique. Maintenant, sur la paix, il est sûr qu'effectivement, on a eu le prix Nobel de la paix. On en est très fiers d'ailleurs, c'est vrai que c'est notre contribution. Et pourquoi moi aujourd'hui je viens dans votre studio pour partager cette connaissance qu'on a, nous scientifiques, c'est le citoyen derrière le chercheur qui s'entend bien que voilà, la paix et l'équilibre de notre société dans les dizaines d'années qui viennent dépendent de ce qu'on va faire, des choix de société qu'on fait aujourd'hui. D'où l'importance extrême de ce qui s'est passé à Paris en décembre dernier, de la COP21, qui allait être un tournant. Donc, notre sortie des labos, je vais le dire comme ça, se fait plus uniquement à travers les rapports du GIEC, qui sont essentiels, faut prendre des décisions sur une base scientifique, mais aussi d'alerte.
Alors justement, il y a une annonce là, hier, des climatologues, des experts du climat qui nous disent la hausse des températures, ce que vous venez de dire, elle s'emballe parfois avec ses effets de seuil et que finalement, l'accord de Paris, il est toujours pas ratifié d'abord, il entrera en vigueur en 2020.
On y est presque, on y est presque.
On y est presque, mais est-ce qu'il n'est pas déjà obsolète justement, avant même d'entrer en vigueur en 2020, c'est Pascal Canfor.
Alors, l'accord de Paris en soi ne résout pas le problème seul, bien évidemment. En revanche, ce dont il est le signal, c'est d'une capacité des responsables politiques à prendre davantage conscience du problème, alors qu'à Copenhague, 5 ans plus tôt, ils avaient été simplement incapables. Donc, c'est un signal très important parce que ça veut dire que maintenant, on a arrêté de se faire la guerre sur le climat. On a arrêté de se renvoyer en permanence la responsabilité en disant « c'est les riches, non, c'est les émergents, etc. » Non, on a dit pour la première fois, et il se trouve qu'en 2012, quand j'étais au gouvernement, j'ai contribué largement à dessiner ce qui pourrait être ensuite ce qui est devenu l'accord de Paris. On a dit « on arrête d'être dans une logique de partage des responsabilités, de partage du fardeau, parce que on n'y arrivera pas. Si on prend le problème par ce bout-là, on n'y arrivera pas, parce que définir quelle est la part exacte de responsabilité des uns et des autres dans une fonction de justice mondiale, c'est juste un rêve, une utopie, donc on n'y arrivera pas. Par contre, on va voir ce qu'on a à gagner en commun, à affronter ensemble ce choc et à trouver les solutions. Et donc le mot-clé, puisque l'alerte, vous venez d'en parler, on l'a entendu encore dans ce reportage, je pense que la prise de conscience de l'impact, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 30 ans, c'est maintenant. Je pense que c'est quasiment universel aujourd'hui, même en Chine, même en Inde, même dans des pays qui pendant longtemps n'ont pas senti le sujet, maintenant les opinions publiques sont extraordinairement sensibles. Maintenant, la question, c'est le partage des solutions, le déploiement de ces solutions à grande échelle pour gagner la course contre la montre.
Justement,
et c'est là où l'accord de Paris est décisif, parce qu'il ouvre la voie au partage des solutions, parce que tout le monde se dit, maintenant, on a une feuille de route commune. Est-ce qu'on va gagner cette bataille juste parce qu'on a signé l'accord à Paris? Non, mais c'est clair que si on ne l'avait pas signé à Paris, on l'avait perdu.
Quelle solution, justement? On a l'impression parfois aussi que tout ce qui est apporté comme aide, on l'a vu au Malawi, où on leur dit que vous pouvez peut-être aussi planter d'autres variétés de céréales, plus résistantes à la sécheresse, aujourd'hui prendre des assurances, ça vous aidera à passer un mauvais moment, mais on a l'impression que tout ça est un peu vain. Il n'y a pas que ça, évidemment, comme solution.
Bien sûr, déjà, il n'y a pas une seule solution, bien évidemment, c'est un cocktail de solutions. D'autre part, il ne faut pas regarder, évidemment, si on passe son temps à écoper un seau qui ne cesse de se remplir à cause des dérèglements climatiques.
Il faut fermer le robinet plutôt que passer la serpillière.
Donc, il faut travailler sur les causes. Et quelles sont les causes? C'est les industries fossiles, c'est un système agroalimentaire qui marche sur la tête, parce qu'on n'arrête pas de consommer des produits qui ont fait le tour du monde 30 fois avant d'arriver dans notre assiette. Donc ce sont des causes qui sont assez connues. Les bâtiments, les transports, l'énergie, l'alimentation, quand vous additionnez ces 4 secteurs, vous avez la quasi-totalité de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on connaît les solutions.
Il n'y a pas, y a pas un panneau solaire au Malawi, par exemple. On en entend parler depuis. Non, mais prenons un pays qui souffre vraiment du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on lui a apporté? On dit qu'il ne faut pas que l'Afrique, le continent africain, passe par la case, par exemple, pétrole. Allons-y tout de suite, les énergies renouvelables. Il n'y a pas un panneau solaire, j'en ai pas vu. un peu d'électricité dans les villes. Alors, mise à mal aujourd'hui par le niveau du lac Malawi. Voilà, mais
là où vous êtes allé, je ne sais pas, par définition, quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, c'est il y a une explosion de ce qu'on appelle le développement du solaire off-grid, c'est-à-dire en dehors du réseau, décentralisé. C'est quelque chose qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Maintenant, vous avez raison, évidemment, ça n'est pas partout.
Ça commence seulement.
Exactement. Ça commence seulement. Donc, par définition, ça veut dire qu'il y a des endroits où ce n'est pas le cas. C'est très clair et c'est dramatique pour les gens. C'est pour ça qu'il faut investir ces fameux 100 milliards de dollars par an pour le climat. Et surtout, il faut déployer les modèles économiques qui font qu'on ne raisonne pas simplement sur de l'argent public qui ne sera jamais par définition à la hauteur, mais qu'on change massivement les investissements privés, qu'on crée des nouveaux modèles économiques qui font que demain, eh bien, c'est moins cher d'acheter de l'électricité renouvelable que des énergies fossiles.
Une assurance privée, c'est bien ?
C'est bien parce que c'est mieux que... Enfin, quand vous êtes un paysan au Malawi, encore faut-il d'abord avoir quelque chose à assurer, puisqu'un assureur ne va assurer que quelque chose qui est assurable. Donc, le patron d'AXA, qui s'y connaît en matière d'assurance, dit « Un monde à 3 ou 4 degrés de réchauffement climatique est un monde qui n'est plus assurable. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que le risque est tel que la logique même de l'assurance, qui implique que parfois il y a un problème et parfois il n'y en a pas, quand il y a des problèmes partout, là, par définition, on n'assure pas. Et donc c'est le mécanisme d'assurance ne permet pas à lui seul de régler le problème.
Donc ce sont donc les États, hein, si le privé ne peut pas être le bienfaiteur de l'humanité, c'est vers les États qu'il faut se tourner pour trouver ces solutions.
Les entreprises. Vous étiez,
ou les entreprises peut-être, ministre du Développement, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une carence de nos réponses ? On parle d'aide au développement, d'aide humanitaire, on sait agir dans l'urgence pour répondre à une crise. Les ONG parfois disent qu'il faudrait arriver à anticiper, peut-être former les populations à s'adapter à ces changements inéluctables qu'elles vivent aujourd'hui, plutôt que d'être dans des recettes anciennes.
L'adaptation, c'est le grand mot-clé de la COP22 qui se tiendra à Marrakech et qui sera justement la COP africaine. Le Maroc veut faire de cette COP, à juste titre, au mois de novembre, la COP africaine pour gagner des choses, notamment sur le plan financier, gagner des choses pour que les pays du Nord financent davantage l'adaptation notamment des populations et des pays les plus vulnérables au choc climatique. C'est aujourd'hui, et c'est une grande lacune aujourd'hui de la COP21, mais c'est le parent pauvre, en quelque sorte, le financement de l'adaptation. Pourquoi ? La réalité oblige à dire que pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire que quand vous allez donner de l'argent, quel est l'intérêt économique des entreprises françaises, européennes, américaines à aller aider le paysan du Malawi qui est dans le reportage ? Aucun. Donc à partir du moment où il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas d'intérêt économique, finalement il n'y a pas beaucoup d'argent derrière. C'est triste, mais c'est comme ça.
Mais concrètement, cette adaptation, quelle forme elle peut prendre ?
Alors, elle peut prendre plein de formes. Par exemple, le fait... Alors, l'adaptation, je dirais... La migration est une forme d'adaptation. Mais c'est une adaptation c'est totalement ultime. Subie. Absolument. C'est l'adaptation ultime. Mais c'est une forme dans l'histoire d'adaptation que l'humanité a pratiquée et continuera de pratiquer. Mais si on se dit... L'adaptation, quand même, que l'on préfère, c'est celle qui permet aux gens de vivre là où ils ont envie de vivre. Ça peut être de partir, mais ça peut aussi être de rester, bien évidemment. Mais c'est une agriculture, d'abord, notamment dans le cas des pays les plus vulnérables, comme le Malawi, dans le reportage, c'est la question agricole. C'est qu'aujourd'hui, on a un enjeu majeur d'insécurité alimentaire, parce qu'on a déjà une baisse des rendements liées au choc climatique, parfois pas assez d'eau, parfois trop d'eau. Donc c'est la question de la sécurité alimentaire, de la restauration des terres. Il y a des terres qui se dégradent en permanence, on l'entend dans le reportage. Il faut donc investir dans la restauration des terres pour qu'elles continuent de produire, qu'on augmente la productivité et qu'on réussisse ainsi à garder de la sécurité alimentaire locale pour éviter d'avoir à migrer.
Sur cette question d'adaptation des populations, Eric Gilliardi.
Oui, je voulais dire qu'on commence à travailler avec des ONG, c'était nouveau sur ce dernier événement El Niño, pour les aider à prévoir où il va y avoir des impacts et donc déployer leur aide à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent puisque nous arrivons maintenant à faire des prévisions saisonnières avec un certain degré de fiabilité justement qu'il y a El Niño dans les tropiques. Et donc on va pouvoir, et ça a été le cas avec Oxfam pour l'Afrique de l'Est justement, fournir des informations plusieurs mois à l'avance qui va permettre de mettre en place toute une logistique plutôt que d'être en réaction à la catastrophe, ce qui était souvent le mode de fonctionnement des ONG. Donc tout ça pour dire que l'impact, comme on le disait tout à l'heure, se fait sentir par les extrêmes météorologiques
Et nous, chercheurs, on arrive, et dans nos centres de prévision, de plus en plus, à voir comment la probabilité d'avoir un extrême, plusieurs... On ne peut pas prévoir une tempête particulière 3 mois à l'avance, mais on peut savoir si la probabilité d'avoir beaucoup de ces extrêmes, de sécheresses, de prévisions, va changer avec El Niño qui arrive ou la Niña, et comment, en se projetant même plus loin, le changement climatique va changer ces probabilités. Hein, puisqu'il ne pleut pas à tous les coups. Voilà, donc ce travail, c'est là aussi où l'extension de notre travail de chercheur va de plus en plus vers la société, participe à ces solutions dont on parlait, d'adaptation, cette fois-ci à court terme.
Au-delà des petites îles qu'on s'est condamnées par la montée des eaux à cause du dérèglement climatique, est-ce qu'il n'y a pas certaines zones qu'on doit carrément abandonner parce qu'il n'y aurait plus rien à faire? C'est le sentiment que j'ai eu au Malawi. Est-ce qu'il faut s'acharner pour non plus vivre, mais survivre, comme le disait quelqu'un dans le reportage?
C'est vrai au Malawi, mais c'est vrai aussi sur la côte aquitaine ou dans le Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on le sait, des territoires métropolitains qui sont grignotés par la montée des eaux. C'est déjà le cas aujourd'hui, alors qu'on n'est qu'à 1 degré de réchauffement climatique. Donc imaginez à 2, imaginez à 3. Et on sait que la culture doit changer, puisque jusqu'à présent, ça a été on protège, on protège, on protège, on ne recule pas. Eh bien, la nature, malheureusement, va être plus forte. Et il faudra reculer. Et donc, il faudra bouger. Et donc, ce sentiment de dire... Il y a des positions que l'humanité va devoir abandonner parce que le dérèglement climatique modifie les grands équilibres. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Qu'on apprenne et qu'on apprenne à vivre avec cette limite. Et évidemment, c'est infini. C'est déjà un tout petit peu difficile quand même quand on a une propriété, qu'on est en train de la perdre dans le bassin d'Arcachon. Mais je vous vois sourire. C'est évidemment pas vital. Quand on est au Malawi et qu'on a juste rien, eh ben, c'est la fin. C'est vraiment en dessous de la survie. C'est la mort.
Pascal Canfin, Eric Gilliardi, merci d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Choc climatique au Malawi. Un pays en état d'urgence. C'était un reportage de Véronique Reberotte réalisé par Annie Brault. À la technique ce soir, Bruno Gagnère. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster et la commenter sur notre site franceculture.fr.